Vous écoutez, on lit pour vous.
Le boycottage canadien fait mal. Un texte de Francis Vaille paru le 26 juin 2025 dans la presse. Le boycottage des voyages aux États-Unis liés aux politiques de Donald Trump a fait couler beaucoup d'encre. Mais à quel point est-il suivi? Et quel est son impact? La réponse est sans équivoque. Les voyages de Canadiens aux États-Unis se sont effondrés depuis la prise de pouvoir de Donald Trump, selon les plus récentes données de Statistique Canada. Le recul est important partout au Canada et pour l'instant, il se manifeste davantage pour les voyages en automobile qu'en avion. La chute est brutale et inédite. Exception faite de la période pandémique, et elle va bien au-delà des effets de la fluctuation du dollar canadien par rapport à sa contrepartie américaine. Selon mes estimations, l'impact avoisinerait les 2 milliards de dollars en 3 mois. Un tel effet, s'il se poursuit, serait aussi important que les mesures du Canada pour répliquer aux droits de douane américains imposés à l'acier et à l'aluminium. Voyons cela dans le détail. Les plus récentes données complètes de Statistique Canada, parues dernièrement, portent sur les Canadiens revenus de voyage en avril 2025. Résultat, quelque 2,2 millions de Canadiens ont voyagé aux États-Unis en avril 2025, soit près d'un million de moins que durant le même mois de 2024. Le recul est de 31% du jamais vu sur une période d'un an, sauf durant la période de la COVID-19, où la frontière a été pratiquement fermée. Non seulement la baisse est marquée, mais elle s'est accrue de mois en mois depuis la déclaration de guerre commerciale de Trump envers le Canada et sa volonté d'en faire le 51e État américain. En 2025, la chute des voyages est ainsi passée de 17% en février à 23% en mars, puis à 31% en avril. Et si on se fie à l'indicateur avancé de Statistique Canada, l'hécatombe se poursuivra en mai avec un recul avoisinant, 35%, toujours comparativement au même mois, en 2024. Sur 3 mois, la chute atteint donc 2,3 millions de voyageurs. C'est énorme, d'autant qu'elle s'ajoute à celle des touristes d'autres pays. Le boycottage a été suivi partout au Canada, quoique un peu moins en Alberta, où les électeurs sont souvent plus sympathiques qu'ailleurs aux positions de Trump. Pour l'instant, les Canadiens voyageant en automobile sont passablement plus nombreux à bouder les États-Unis que ceux voyageant en avion. La chute est de 38% pour les voyageurs terrestres en avril 2025, contre 10% pour les voyageurs aériens. Il faut toutefois savoir que les Canadiens choisissent de voyager en avion ailleurs dans le monde. Pendant que les voyages aériens faits par les Canadiens aux États-Unis chutaient de 10%, ils augmentaient de 11% ailleurs. Même phénomène au Québec. De plus, la chute des voyages aériens peut prendre plus de temps à se manifester dans le concret que ceux en automobile, compte tenu du processus de réservation. À ce sujet, mon collègue Julien Arsenault rapportait d'ailleurs une chute des réservations de 20% des vols de Canadiens vers les États-Unis pour les mois de juin, juillet et août 2025 et de 34% pour Miami. Les Américains boudent-ils eux aussi le Canada? Oui, mais la baisse est 4 fois moindre que l'inverse au cours des 3 mois complets de Statistique Canada. Un graphique vaut 1000 mots. Les fluctuations du dollar canadien n'y sont pas pour grand-chose. Oui, la baisse du UAR peut faire diminuer le nombre de voyageurs canadiens aux États-Unis, comme ce fut le cas entre 2013 et 2016. Sauf qu'à l'époque, le UAR avait perdu 25 cents en 3 ans, passant de 1 dollar US à environ 75 cents US. Cette fois, la baisse du UAR a été d'environ 4 cents, au pire, et cette baisse avait été presque entièrement effacée en avril 2025. Quel est l'impact d'un tel boycottage? Possiblement autour de 2 milliards de dollars en 3 mois, si l'on se fie à une autre enquête de Statistique Canada. Selon cette enquête, les Canadiens dépensent en moyenne 851 dollars lorsqu'ils se rendent aux États-Unis en automobile, en avion ou autrement. Sachant que le nombre de Canadiens ayant traversé la frontière a reculé de 2,3 millions en 3 mois, on peut estimer que l'impact avoisinerait les 2 milliards de dollars, dont une bonne part aux États-Unis. Est-ce important? Tout à fait, surtout si la tendance se maintient, ce qui donnerait 8 milliards pour un an. À cela s'ajoute le fait que les voyages annulés aux États-Unis se transforment souvent en dépenses additionnelles au Canada, en voyage ou autrement. En comparaison, les mesures de représailles du Canada annoncées en mars, en lien avec les droits de douane américains sur l'acier et l'aluminium, représentent des droits de douane annualisés de 7,5 milliards de dollars. La comparaison est bien imparfaite, je vous l'accorde. Dans un cas, les Canadiens réduisent carrément le volume d'affaires des entreprises américaines qui bénéficient du tourisme, entre autres, et dans l'autre, le Canada impose des droits de douane qui risquent de faire diminuer le volume d'affaires d'exportateurs américains. La comparaison permet néanmoins d'avoir un ordre de grandeur et de penser que le boycottage canadien des séjours aux États-Unis pourrait être autant, sinon plus douloureux pour les Américains que les mesures de représailles visant le secteur le plus ciblé par Donald Trump. On s'entend, cet impact ne fera pas basculer l'économie américaine, qui est gigantesque. Tout de même, certaines régions touristiques populaires en ressentiront les effets. Et c'est ce qui compte. C'était « Le boycottage canadien fait mal », un texte de Francis Vaille, paru le 26 juin 2025 dans La Presse.
Un repas le midi est essentiel pour la réussite de nos enfants. Un texte de Mireille Jeté, paru le 28 juillet 2025 dans Le Devoir. Au moment où de nombreuses familles profitent des vacances estivales, toute l'équipe de La Cantine pour tous est à pied d'œuvre. Comme chaque année, nous préparons activement la rentrée scolaire. Parachèvement des menus, intégration de nouvelles écoles au programme, coordination avec nos traiteurs membres et soutien aux écoles pour que tout soit prêt pour les familles. Cette année, une nouveauté vient bonifier l'expérience de tous. Une toute nouvelle plateforme de commande, plus conviviale, flexible et adaptée aux réalités des familles. Un repas pour apprendre dans de meilleures conditions. Dès la première sonnerie de la cloche, des milliers d'enfants inscrits au programme La Cantine dans les écoles auront accès à un repas sain et à petit prix livré directement aux écoles participantes. Ce n'est pas un luxe, c'est une réponse concrète à un besoin fondamental. Selon l'Observatoire québécois des inégalités, le taux d'insécurité alimentaire des enfants au Québec a bondi de 19,5 % en 2022 à 27,5 % en 2023, soit une hausse de 41 % en seulement un an. Le programme « La cantine dans les écoles », c'est 1 million de repas distribués lors de l'année scolaire 2024-2025. Un record! Ce jalon est bien plus qu'un chiffre. Il témoigne de la force du réseau, de l'engagement des membres, des écoles, de la confiance des familles et du soutien des partenaires. C'est un filet de sécurité pour les familles, une source de stabilité pour les enfants et un appui direct à leur réussite scolaire. Ensemble, nous prouvons qu'il est possible de nourrir l'avenir, un repas à la fois. Mais ce programme va bien au-delà de la simple logistique de repas. Il est le fruit d'un engagement collectif, ancré dans l'économie sociale. Lors du dernier sommet de l'économie sociale, notre directeur général, Thibault Linné, a rappelé notre volonté et notre capacité de bâtir un modèle alimentaire scolaire durable et solidaire qui reconnaît et soutient l'expertise des acteurs communautaires partout au Québec. Un projet de société. Comme le souligne Donald Boisvert, président du conseil d'administration de La Cantine pour tous, ce n'est qu'en misant sur la force de notre réseau et la complémentarité des expertises que nous pourrons offrir une réponse à la hauteur des besoins. L'alimentation scolaire est un projet de société. Ce modèle, nous le construisons chaque jour en partenariat avec les milieux scolaires, les traiteurs membres, les bailleurs de fonds et les familles. Il prouve qu'ensemble, il est possible d'offrir à chaque enfant un repas sain, sans stigmatisation et selon la capacité de payer de chaque famille. Les préparatifs de la rentrée scolaire avançant et que les discussions sur l'alimentation scolaire se poursuivant à Québec et à Ottawa, nous réaffirmons notre conviction. Il est temps de penser collectif. Nourrir les enfants, c'est investir dans leur santé, leur développement et leur avenir. Et c'est l'affaire de toute une société. C'était « Un repas le midi est essentiel pour la réussite de nos enfants ». Un texte de Mireille Jeté, paru le 28 juillet 2025 dans Le Devoir.
Des balados francophones qui réinventent les codes linguistiques. Un texte de Martine Ernoult, paru le 8 juillet 2025 dans Le Franco. Depuis 5 ans, de plus en plus de balados voient le jour en francophonie minoritaire. Consciemment ou non, les producteurs de contenu mettent en valeur plusieurs variétés de français. En jouant avec la langue, ils contribuent à lutter contre l'insécurité linguistique. Ils sont néanmoins toujours à la recherche de leur public. Les balados sont comme des galeries audio de nos accents, de nos dialectes. C'est une façon d'archiver nos français, estime la co-réalisatrice du balado françaisquois Déclic, Sylvie Walker. Déclic, diffusé depuis juillet 2023 sur Spotify, Apple et Google, est destiné avant tout aux jeunes élèves françaisquois. Il décortique en 11 épisodes et autant d'entrevues le concept de construction langagière, identitaire et culturelle. 3 ans plus tôt, en 2020, le Conseil culturel françaisquois approchait l'enseignante et musicienne Sylvie Walker avec l'idée de créer une ressource pédagogique que les enseignants peuvent utiliser dans leur curriculum. On a une vraie réflexion sur la réalité du français. Notre but, c'est de montrer que l'on n'a pas besoin d'avoir un français parfait, de hiérarchiser la langue, explique-t-elle. Il n'y a pas de personne plus francophone qu'une autre. On est en train de devenir une grande soupe de francophonie. Mise en valeur des traits linguistiques locaux. Déclic est loin d'être le seul balado franco-canadien. En Acadie, la sociolinguiste à l'Université de Moncton, Laurence Arrigui, en dénombre au moins une vingtaine. Ça reste dans la cave. Yousque t'es rendu, ou encore Talk Acadie, la liste est longue. Il y a eu un gros boom pendant la pandémie de COVID-19, rapporte-t-elle. En contexte linguistique minoritaire, les balados indépendants, faits par Monsieur et Madame Tout-le-Monde, renouvellent et viennent grossir l'espace médiatique francophone. Selon la chercheuse, les producteurs de ces contenus audio sont souvent des hommes éduqués entre 30 et 40 ans qui veulent prendre le temps et donner la parole aux gens de leur communauté. Certains explicitent leur politique linguistique, d'autres non, mais tous aspirent à créer des espaces sans jugement, selon les mots de Laurence Arrigui. La langue n'est pas forcément au centre de leurs préoccupations. Ils ont néanmoins une esthétique commune. Ils mettent en valeur la richesse des traits linguistiques locaux, analyse-t-elle. Côté irrévérencieux, vecteur d'innovation. C'est naturel. Tu n'as pas besoin de blueprint pour que les personnes se sentent confortables dans leur variété de français, appuie le créateur de Talk Acadie, Réal Thibault, qui travaille par ailleurs dans le secteur forestier. L'Acadien de Clare, dans le sud-ouest de la Nouvelle-Écosse, a lancé son balado, anciennement l'Acadjohn, en juillet 2021 sur YouTube. Il en est aujourd'hui à son 64e épisode. Depuis 4 ans, il interroge des artistes, des historiens, avec l'envie de mieux faire rayonner la culture acadienne et améliorer la couverture des enjeux de la francophonie. Pour le professeur de théâtre à l'Université d'Ottawa, Joël Beddoes, la balado-diffusion présente un grand intérêt dans la francophonie en situation minoritaire, où le rapport à l'écrit est toujours problématique. L'importance accordée aux formes orales est hors norme en francophonie minoritaire. Ça constitue des territoires extraordinaires à explorer avec moins de normes et de contraintes, observe-t-il. À ses yeux, les balados s'inscrivent dans cette tendance-là. Ils peuvent avoir un côté underground irrévérencieux, hors des sentiers battus, vecteur d'innovation. Les jeunes jouent sans complexe avec la langue, la déconstruisent. Les gens se reconnaissent et s'entendent. Le metteur en scène évoque notamment le balado franco-ontarien « De quoi tu parles de » qui a pris fin en novembre 2024. Pendant 2 ans, le musicien Marc-Antoine Joly et l'animateur Nicolas Monette ont mené plus de 200 entrevues sur un ton particulièrement décontracté. Ils ont mis en avant un français oral populaire, croquant, résistant à la norme linguistique hégémonique, salue Joël Beddoes. Quand j'entends ça, je me dis que la langue va bien, je n'ai pas peur. Qu'ils soient producteurs de contenu ou simples auditeurs, tous estiment que les balados aident à lutter contre l'insécurité linguistique. Les gens se reconnaissent et s'entendent dans la couleur, la diversité des expressions, loin du français standard, considère Sylvie Walker. Se faire connaître, c'est le gros problème. Quelles que soient leurs vertus, les balados franco-canadiens sont encore à la recherche de notoriété. Se faire connaître, c'est le gros problème, reconnaît Réal Thibault, qui parle d'une 100 d'écoutes en moyenne pour chaque épisode de Talk Acadie. Afin d'attirer plus de monde, le néo-écossais a récemment décidé de créer des vidéos sur TikTok. L'enjeu de la découvrabilité reste entier. On a du mal à connaître l'audience. Certains balados ne rencontrent pas forcément leur public et s'essoufflent, confirme Laurence Arrigui. Joël Beddoes estime pour sa part qu'il est encore trop tôt pour savoir si le phénomène va durer et prendre de l'ampleur. On verra d'ici 10 ans si le balado devient l'alternative à la lecture traditionnelle, dit-il. Beaucoup d'enseignants le proposent aujourd'hui comme outil pédagogique. Peut-être qu'il va se transmettre et prendre racine dans la conscience collective des jeunes. En Saskatchewan, Sylvie Walker offre ainsi, depuis 3 ans, des ateliers sur la balado-diffusion aux élèves françaisquois de 7e à la 12e année. Elle est également en discussion avec le Conseil culturel françaisquois pour réaliser une 2e saison de Déclic, mais avec un ou une autre animateur cette fois. À l'autre bout du pays, à Claire, Réal Thibault compte bien continuer. « C'est parfois difficile, mais tant que c'est le fun pour moi, je trouverai des façons de faire. » C'était « Des balados francophones qui réinventent les codes linguistiques », un texte de Martine Ertnoult paru le 8 juillet 2025 dans le Franco.
De la sécurité privée pour les quartiers riches. Un texte de Philippe Tessera-Lessard paru le 29 juillet 2025 dans La Presse. Des résidents de quartiers cossus du Grand Montréal se cotisent pour embaucher des agents de sécurité qui patrouillent dans leurs rues ou leurs pâtés de maison, notamment pendant leur absence estivale. Le phénomène n'est pas nouveau, mais la vague de vols de voitures des dernières années pourrait lui avoir donné un nouveau souffle. Citation : En 2024, dans ma ville, il y avait une grande quantité de vols. Des cambriolages, des entrées par effraction, des vols de voitures. En fait, il y a même eu des entrées par effraction sur ma rue. Fin de citation, a relaté la courtière immobilière montréalaise Tatiana Londono dans une vidéo récente. Citation : Les voisins se sont rassemblés et se sont cotisés pour embaucher notre propre sécurité privée, dit Madame Londono. La police était inutile parce qu'ils arrivaient seulement après les faits. Oui, ça coûtait cher, mais notre paix d'esprit est précieuse. Fin de citation. Madame Londono n'a pas répondu aux appels ni aux messages de la presse. Elle a ajouté, citation, « En étant capable de payer pour notre sécurité, nous ne dépendons pas de la ville ou de la police. » Fin de citation. Des forfaits. C'est la firme Groupe canadien de sécurité privée qui a fourni les services de sécurité à la rue où habite Madame Londono. La presse a choisi de ne pas nommer cette rue. Marc Lambert, son dirigeant, a expliqué en entrevue avoir plusieurs contrats de patrouille 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, avec des résidents de différents secteurs du Grand Montréal. En plus de certains quartiers dans l'île de Montréal, ces patrouilleurs surveillent notamment des rues à Blainville, Terrebonne, Saint-Jérôme et Laval. Certains contrats sont temporaires pour les vacances, mais la plupart durent toute l'année. Les voisins ne sont pas forcés de cotiser, a expliqué M. Lambert. Dans une rue située sur un flanc du Mont-Royal, parsemée d'une quarantaine de luxueux manoirs, par exemple, seulement une dizaine de résidents acceptent d'assumer leur part du contrat de surveillance. Citation : C'est comme si vous aviez votre forfait de Vidéotron. Vous recevez votre facture tous les mois, et à partir du moment où c'est payé, les gars dans les véhicules savent que ces maisons-là sont couvertes. Fin de citation, a-t-il expliqué. Et si l'agent de sécurité soupçonne une situation louche dans une maison non couverte? Citation, « On est un service privé », répond Marc Lambert. « Je ne suis pas un service de police. Ma job primaire, c'est de surveiller ceux qui me paient. Ceux qui ne me paient pas, ils n'ont pas le service. » Fin de citation. Marc Lambert suggère aux cotisants de lier leur système d'alarme à sa firme afin de réduire le temps de réponse. Citation, « On est déjà sur place ». Fin de citation, a-t-il souligné. Il ajoute que ces patrouilleurs peuvent aussi intervenir dans d'autres situations d'urgence, notamment avec un défibrillateur installé dans leur voiture. Le forfait peut coûter de 115 $ à plus de 1000 $ par mois, selon le nombre de voisins qui contribuent. À l'automne 2023, Groupe canadien de sécurité privée se vantait d'avoir facilité 9 arrestations pour vol de véhicules, 5 arrestations pour entrée par infraction nocturne, 2 personnes sous mandat d'arrestation remis au service policier et 225 000 $ combinés épargnés à ses clients en seulement 16 jours. Poser des questions. Dany Laflamme, porte-parole de l'Association provinciale des agences de sécurité, APAS, affirme qu'il s'agit d'une pratique connue dans l'industrie. Citation : Les résidents se mettent 3 ou 4 ensemble et demandent un patrouilleur pendant un certain temps, par exemple parce qu'ils sont partis en vacances. Pendant la période des fêtes, on voit ça de manière assez régulière. » Fin de citation, a-t-il expliqué en entrevue téléphonique. Ce sont des demandes qu'on a. Dans ces cas, le rôle de l'agent de sécurité consiste essentiellement à parler et à poser des questions à toute personne qui semblerait suspecte et à appeler le 911 en cas d'urgence. Citation. Le fait d'avoir une voiture de sécurité avec un lettrage, disons que ça a un rôle préventif et dissuasif. Fin de citation, selon Danny Laflamme. Joseph Montanaro, autre courtier immobilier impliqué dans la vente de demeures luxueuses à Montréal, a confié à la presse que trois de ses voisins à Westmount ont, citation, « de la sécurité stationnée 24/7 dans leur auto », fin de citation, devant leur domicile. Dans ce cas, les voisins ont chacun leur contrat de sécurité plutôt que de partager un contrat à trois. Citation, « c'est arrivé un peu après qu'il y a eu beaucoup de vols d'automobiles il y a 2 ans ». C'était très populaire. Dans notre rue, les gens s'essayaient. Fin de citation, a-t-il relaté. Les voisins, citation, ont engagé des gardiens de sécurité, même quand ils ne sont pas en vacances. C'est toute l'année. Fin de citation. Le service de police de la ville de Montréal a indiqué qu'il ne voyait pas de problème à ce que des voisins se rassemblent pour retenir les services d'agences de sécurité. Citation. Les citoyennes et citoyens sont libres d'engager des agents de sécurité. Fin de citation, a indiqué le service de police. Citation, il est de la responsabilité des agences de sécurité de contacter les services policiers et collaborer avec eux si nécessaire. Toutefois, si une problématique particulière est remarquée dans un secteur, nous encourageons toujours les citoyennes et citoyens à communiquer avec leur poste de quartier afin de leur en faire part. Le poste de quartier pourra adapter ses opérations et ses plans de patrouille en fonction de la situation. Fin de citation. Des villes aussi. Les riches Montréalais ne sont pas les seuls à retenir les services d'agents de sécurité privés pour patrouiller dans des lieux publics. Des villes et des arrondissements font aussi ce choix. Montréal, par exemple, a déployé les patrouilleurs de firmes privées dans des quartiers sensibles, quartiers chinois, Vieux-Montréal et Village, l'automne dernier. Citation, l'objectif, c'est surtout de cibler les réseaux criminels qui vendent de la mauvaise drogue dans les rues et qui affectent le sentiment de sécurité des résidents. Fin de citation, avait expliqué l'élu Robert Baudry. L'arrondissement d'Anjou fait surveiller ses parcs par des firmes privées. C'était « De la sécurité privée pour les quartiers riches », un texte de Philippe Tessera-Lessard, paru le 29 juillet 2025 dans La Presse.